Les informations, Yannick Catin.
Bonjour, redonner un véritable ancrage cantonal au salon de l'immobilier neuchâtelois, c'est l'objectif déclaré par les organisateurs ce matin en conférence de presse. Un comité stratégique nouvellement créé a travaillé sur l'orientation de l'événement. Le programme se précise après le décès du pape François. Ses funérailles se dérouleront samedi matin sur la place Saint-Pierre au Vatican. Il restera dans les mémoires comme un homme proche du peuple allant à la rencontre des gens, ce qui n'a pas facilité le travail des gardes suisses. Union Neuchâtel de retour au bord du lac Léman ce soir. Les basketteurs unionistes affrontent les Lions de Genève pour l'acte 2 des quarts de finale des playoffs. Selon Kevin Martina, le joueur neuchâtelois, pour gagner, il faudra se montrer plus adroit que samedi. Côté météo, cet après-midi, le temps sera en partie ensoleillé. Il ne devrait pas pleuvoir. Les températures se situent actuellement entre 13 et 17 degrés. Faire du salon de l'immobilier un véritable événement phare du canton de Neuchâtel, c'est la volonté des organisateurs annoncée ce matin en conférence de presse à la veille de son ouverture. Il ouvre ses portes demain après-midi et se tient jusqu'à dimanche aux patinoires du littoral. Près de 200 exposants sont présents et 13 000 visiteurs sont attendus. Diverses animations et activités sont proposées au public, dont 27 conférences. Principale nouveauté cette année, l'apparition d'un restaurant et d'une tente sur le parking destiné à la formation avec le concours des apprentis constructeurs de routes. Mais cette 13e édition, c'est aussi et surtout un repositionnement de la manifestation avec un ancrage davantage cantonal. Richard Chassot, directeur du Salon de l'immobilier neuchâtelois.
Oui, c'est vrai, quand on a repris, premièrement, juste pour se rappeler, c'était juste avant le Covid, on n'a pas pu faire les deux premières éditions. Donc ensuite, on a fait une première édition juste après le Covid qui était un tout petit peu, j'ose dire, à l'arrache, essayer de sauver les meubles, créer cette 10e édition pour que le salon perdure. Et ensuite, on s'est quand même vite rendu compte que quand on en a fait 3 avant celle-ci, il était difficile peut-être de garder l'enthousiasme, de garder l'engouement de tous parce qu'il y avait un vécu avant et après Covid et puis surtout un changement d'organisateur. Donc du coup, on s'est associé, en fait, j'ai créé avec moi un comité stratégique de gens plutôt du monde de l'immobilier ou du monde économique neuchâtelois. Et puis avec eux, on a décidé de redonner justement une stratégie sur l'ancrage. Parce qu'au départ, peut-être que moi, je voyais plus la Romandie qui se retrouve dans un salon d'immobilier à Neuchâtel au tout début. Puis on s'est très vite rendu compte que non, il ne fallait absolument pas faire ça. C'était un salon d'immobilier neuchâtelois. Puis on peut faire venir peut-être des romans à visiter le canton de Neuchâtel pour se domicilier dans ce canton-là ou venir travailler.
Des propos recueillis par Jean-Paul Pitchy, le salon de l'immobilier neuchâtelois ouvre ses portes demain au patinoire du littoral et se tient jusqu'à dimanche avec l'entrée gratuite pour ce dernier jour d'événement. C'est une infraction qui va probablement coûter cher à un automobiliste. Samedi vers 17h25, un conducteur a été flashé à 172 km/h sur la route du col de la Vue des Alpes, au lieu dit le plat de Boisneau, un secteur limité à 80. Le chauffeur de 22 ans, domicilié dans les montagnes neuchâteloises, a été appréhendé et son permis a été saisi. L'homme en cours des poursuites pénales et administratives pour délit de chauffard pouvant aller jusqu'à une peine d'un an de prison, ainsi qu'une suspension de permis d'au moins 2 ans. Du raffut hier soir à Butte. Vers 20h, un habitant du village s'est mis à lancer des pierres contre les fenêtres de maisons et de voitures. Alerté, la police est rapidement intervenue et a pris en charge l'homme perçu comme incohérent. Au total, 13 vitres ont été brisées, mais aucun blessé n'est à déplorer. Une procédure est en cours. La police rappelle que dans ce genre de cas, il est déconseillé et dangereux de tenter d'intervenir auprès de l'individu. Il est préférable de se tourner vers les services de police. Les salaires ont progressé. L'an dernier en Suisse, l'Office fédéral de la statistique fait état d'une hausse de 1,8% en comparaison annuelle. Une hausse plus élevée que les 2 dernières années. Elle atteignait 1,7% en 2023 et 0,9% en 2022. L'inflation atténue toutefois cet effet et l'évolution des salaires est aussi très variable selon les secteurs. Le secteur tertiaire est mieux loti. L'augmentation atteint 3% dans les domaines de la santé, de l'hébergement médico-social et des activités de poste et de courrier par exemple. Les fortes chutes de neige qui ont recouvert une grande partie du Valais en fin de semaine dernière impactent encore la circulation. L'avalanche tombée jeudi dernier au niveau du tunnel du Grand Saint-Bernard empêche toujours tout trafic. Selon la société qui gère le tunnel, aucune date de réouverture n'est pour l'heure prévue. Jacques Gerber a pris sa mission très à cœur. L'ancien ministre PLR jurassien, désigné délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine depuis le début de l'année, rentre d'une mission de 2 semaines à Kiev. Il est chargé de coordonner l'aide suisse sur place et d'inciter des entreprises suisses à investir en Ukraine pour permettre sa reconstruction. Sur place, Jacques Gerber a vu des Ukrainiens prêts à tout pour leur liberté.
C'est un État qui fonctionne, qui se doit de fonctionner malgré cette situation atroce. J'ai rencontré un peuple qui veut se battre, qui sait ce que c'est que la liberté individuelle, liberté de choisir, liberté de penser, mais également liberté de développer son pays comme ils l'entendent à travers justement les mécanismes démocratiques. Cette dynamique-là que j'ai rencontrée en Ukraine n'est pas prête de disparaître. En tout cas, ils se battront pour que ça ne se passe pas, même que les pertes sont atroces, même que la vie quotidienne est extrêmement difficile. Ils restent convaincus de leur combat pour leur pays qui n'a peut-être jamais réussi jusqu'à aujourd'hui, mais dont on espère que demain ce sera possible.
Le délégué du Conseil fédéral pour l'Ukraine, Jacques Gerber, dispose d'une enveloppe de 300 millions de francs pour cette année et de 1,5 milliard pour les 4 prochaines. Le programme Ukraine de la Confédération prévoit une contribution à une reconstruction globale du pays. Jacques Gerber.
Il faut aider l'Ukraine à se reconstruire et dans une définition globale de la reconstruction. Il y a bien sûr la reconstruction d'infrastructures, de routes, d'écoles, d'hôpitaux, mais il y a également toute la reconstruction de la société, aider les gens avec des problèmes psychologiques. C'est vraiment une notion globale de la reconstruction auquel la Suisse entend apporter son soutien. C'est vraiment l'objectif du programme Ukraine. Ce n'est pas simplement aider des entreprises suisses à aller augmenter leurs affaires en Ukraine.
Des propos recueillis par Serge Jubin. Encore un mot sur l'Ukraine. Le second tour des discussions entre l'Ukraine et ses partenaires occidentaux visant à obtenir un cessez-le-feu avec la Russie auront lieu demain à Londres. C'est ce qu'a affirmé ce matin un haut responsable ukrainien à l'AFP sous couvert d'anonymat. Les obsèques du pape François se dérouleront samedi à Rome dès 10h. L'annonce a été faite ce matin par le Vatican au lendemain du décès du souverain pontife. Le Saint-Siège a aussi diffusé ce matin les premières images du pape François dans son cercueil ouvert dans la chapelle de la résidence Saint-Marthe du Vatican où il vivait. Il porte une mitre blanche, une chasuble rouge et est entouré de 2 gardes suisses. Les gardes suisses qui ont été marqués par le charisme de l'Argentin à l'image de Tanguy Ackermann, président de l'association des anciens gardes pontificaux de l'arc jurassien. Il a servi le pape François entre 2018 et 2020. Il nous explique comment la garde a dû se réorganiser pour assurer la sécurité du pape, notamment à travers son choix de vivre à Saint-Marthe plutôt que dans les appartements pontificaux. Tanguy Ackermann.
Tout d'abord, ça a été un vrai défi logistique de sécurité pour la garde suisse. On a perturbé près de 5 siècles de procédures. On avait le pape tout près de notre caserne, dans un palais assez cloisonné finalement. Il a décidé d'aller à l'autre bout du Vatican. Donc ça a été surtout un défi logistique, mais il nous a aussi permis de se renouveler. On écoute le chef. Le chef veut déplacer sa maison, on le suit.
C'est vrai que lui, il aimait la foule. Il vous a mis en difficulté, vous, ses gardes, quand même, de par son envie d'être très proche du peuple?
Alors, c'était un vrai défi de sécurité, effectivement, surtout dans les premiers temps. Le pape avait l'idée d'aller faire un tour sur la place Saint-Pierre, il y allait. Et ça, c'était vraiment des sueurs froides pour le commandant de la garde et le commandant de la gendarmerie vaticane. Progressivement, on a pu prendre le pli du pape François et de s'adapter au maximum à ses contraintes. Mais lui aussi a appris qu'il devait aussi un peu se ménager parce que faire des choses qui n'est pas prévues, pour le pape, il doit rester constamment en état d'éveil, quoi. Et les gens qui rencontrent le pape, même par hasard, on ne sait pas quelle réaction ils auront. Des fois, ils sont pétrifiés, des fois, ils sont très enthousiastes. Il a fallu apprendre et composer avec le charisme du pape François.
François, un pape proche du peuple, donc un pape humaniste aussi, mais un pape progressiste également. Il s'est notamment engagé pour les migrants, le climat et les dénonciations de cas d'abus sexuels dans l'Église. Mais pour certains, il n'est pas allé assez loin. Ce que relativise Romuald Babet, représentant de l'évêque dans la région diocésaine de Neuchâtel.
Si on pense notamment à tout ce qui concerne la synodalité, bien sûr que la synodalité, c'est le fait de marcher ensemble et d'être plus collégial. Mais c'est vrai qu'on aurait pensé que les conférences épiscopales auraient plus de marge, mais il n'est pas allé jusque-là. Peut-être que le prochain ira jusque-là. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'une des missions principales d'un pape, évêque de Rome, c'est l'unité de l'Église. Donc l'Église étant tellement diversifiée et différente sur le monde, son rôle principal, c'est l'unité. Donc à un moment donné, il n'a pas pu aller aussi loin qu'il n'a voulu pour éviter un schisme dans l'Église.
Depuis le début de son pontificat, il s'est décrit comme le pape des pauvres pour les pauvres. Cette simplicité, on la retrouve dans ses dernières volontés.
Oui, effectivement. Ce pape a choisi d'être enterré à Sainte-Marie-Majeure, à Rome, alors qu'on a plutôt une habitude de la basilique Saint-Pierre. On voit bien que depuis son pontificat, le premier mot qu'il a dit en s'adressant à la foule, c'était « bona sera », tout simplement, en se présentant au balcon apostolique. Donc c'est un homme qui est resté proche des gens, et c'est ce qu'on va garder de cet homme.
Un dossier proposé par Cyprien Levy et Sarah Massy.
RTN, il est 12h26.
RTN Sport.
Union Neuchâtel peut-il renverser les Lions de Genève? C'est la question qui se pose au moment de disputer ce soir à 19h30 le deuxième acte des quarts de finale des playoffs de Swiss Basketball League à Grand-Saconnet. Les unionistes se sont inclinés sur le parquet de leur adversaire samedi, 88 à 70 lors de l'acte 1. Au début du mois, ils s'étaient encore montrés impuissants face aux Genevois, aussi bien en finale de la Coupe de Suisse qu'en championnat régulier. Et pourtant, les Lions de Genève ne sont pas intouchables. Kevin Martina veut croire à la victoire à condition de se montrer plus adroit que samedi.
La défense, il faudra juste la maintenir tout le long du match et être bien concentré sur toutes les rotations, tous les close-out, tout ça. Et ensuite, sur les transitions surtout aussi, parce que plusieurs fois on s'est fait prendre. Mais je pense que la clé vraiment, ça va être l'attaque, parce qu'ils arrivent bien à nous bloquer. Aussi notre adresse, on a raté pas mal de tirs, beaucoup plus qu'eux. Je pense qu'on a été beaucoup moins adroit alors qu'on avait des tirs tout aussi ouverts qu'eux. Et je pense que ça va être aussi un facteur. On veut prendre ce match à Genève. Ça va nous mettre que dans une bonne situation, parce qu'après on va leur mettre la pression, parce que si on gagne un match chez eux ils vont devoir gagner deux chez nous, et ça va être compliqué. Parce qu'en plus on a tout le public neuchâtelois qui est derrière nous pour nous porter, du coup ça va être beaucoup plus facile pour nous que pour eux à Neuchâtel.
Des propos recueillis par Daryl Jeanneret, Lions de Genève, Union Neuchâtel. C'est un match à suivre en direct sur RTN ce soir dès 19h15 avec le commentaire de Daryl Jeanneret. Bon appétit.
RTN Sport.